et cours à toi, mon amour. Montons à notre tour. Prends-toi aussi le temps. Tant pis si le temps est court. Je passe le temps de mon printemps, mamie me disait faut pas se leurrer, tout arrive à temps, c'est t'attendre, tout arrive à temps, à qui c'est. Je passe le temps de mon printemps, mamie me disait faut prendre son temps, les choses t'arrivent à point nommé, quand on saurait attendre, l'aimer. À toi mon amour, mon temps à notre tour, prends-toi aussi le temps, tant pis tant mieux si le temps est court. À toi mon amour, moutons à notre tour, prends-toi aussi le temps, tant mieux si le temps est court.
Non, il faudrait que ce soit plus entre la Joconde et Barack Obama, tu vois.
J'aime être stone avec toi, j'aime être stone.
Imagine un monde où les animaux nous mangeraient. Ils feraient des ragoûts de nous, des soupes de nous, des burgers de nous. Imagine un monde où les robots nous trouveraient beaux. Ils feraient l'amour avec nous et ils auraient des enfants de nous. Pourquoi les chiens n'ont pas besoin d'apprendre à nager? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont jamais su oublier? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone.
J'aime être stone. émission Principe Actif. Une rediff, quoi.
Radio Republik Indonesia dengan Aneka Berita dibacakan oleh Maulana Aksan.
Écoute, ce sont les bruits du monde. Une heure de musique des quatre coins du monde. Écoute les bruits du monde. Les bruits du monde par Principe Actif.
Ça me fait penser aux dragonniers qu'on trouve en Thaïlande.
Voilà, nous sommes maintenant avec Julien Morandi-Serra. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et on est en plein cœur de Marseille. Julia Morandi-Serra, vous êtes conteuse ici à Marseille. Vous avez vous participez notamment à l'association Paroles et Merveilles. On va prendre le temps d'en discuter, mais avant de parler de votre association et de ses activités, je veux bien qu'on revienne un petit peu sur votre parcours, vos débuts dans le conte. Vous nous disiez hors micro que ça faisait plus de 25 ans que vous contiez. Comment vous êtes arrivé au conte, qu'est-ce qui vous y a amené?
Eh bien, je suis arrivée au conte un petit peu par hasard, je dirais, parce que j'étais infirmière, comme c'était mon travail principal, j'étais infirmière. Ensuite, j'ai travaillé entre infirmière et conseillère conjugale au planning familial pendant une vingtaine d'années. Et j'ai rencontré beaucoup de monde. Et puis un jour, j'ai une amie qui me téléphone et qui me dit « Tu sais, on va être à la retraite, qu'est-ce qu'on va faire ?» Je dis « Écoute, j'ai pas encore le temps d'y penser parce que les enfants vont toujours à l'école, j'avais 3 enfants, le boulot, enfin, etc. » C'était pas possible. Et puis elle me dit « Tu sais, il y a un stage de conte, est-ce que tu veux venir ?» Je dis « Conte, écoute, j'ai autre chose à faire en ce moment. » Elle me dit « Écoute, faisons le stage, on verra bien. » On a fait ce stage, on est tombé là-dedans et on n'en est plus jamais sorti. À partir de là, on a commencé à créer un petit groupe de personnes que nous connaissions et nous nous sommes intéressés au conte. Et c'est nous deux, Simone et moi, qui avons fondé cette association. Alors nous l'avons appelée Paroles et Merveilles, avec paroles au singulier et merveilles au pluriel. À vous de réfléchir et de voir tout ce que ça veut dire. Voilà, et depuis 26 ans, l'association a continué. Mon amie Simone, malheureusement, est décédée assez rapidement, mais nous avons peu à peu recruté des conteurs et nous ne les recrutons dans notre association qu'après avoir fait une petite formation dont je suis la formatrice. Donc on forme les conteurs et quand ils ont fait ces 4 jours d'initiation, hein, je dis bien d'initiation au conte, on les accepte dans notre association. Pendant un an, on va avec eux ou ils viennent avec nous pour apprendre à compter. Et puis petit à petit, les choses se font comme ça, très simplement.
Sur vos débuts dans le conte, quand vous parliez de ce premier stage que vous aviez fait avec votre amie Simone, qu'est-ce qui vous a interpellé, qui vous a attiré dans cet art de compter et puis d'entendre aussi les histoires des autres? Voilà, qu'est-ce qui vous a fait tomber dedans vraiment? Qu'est-ce qui a retenu, je ne sais pas, votre attention, vos émotions?
Je dois dire que la découverte du conte ne se fait pas tout de suite. La découverte du conte se fait petit à petit. Bon, au début, on apprend des contes, tout le monde, hein, tout le monde peut apprendre un texte et le dire, il n'y a pas de problème. On voit ce que font les comédiens, les conteurs ne sont pas des comédiens, parce que le conte leur appartient et ils en font ce qu'ils veulent. Mais petit à petit, et puis à force de lire des auteurs, hein, qui parlait du conte, j'ai quand même appris beaucoup de choses et puis je les ai appris aussi par moi-même. Je pense que le conte soigne celui qui l'écoute, mais soigne aussi celui qui le dit. Et je pense que dans des épreuves que nous avons, moi j'ai passé pas mal de choses assez difficiles, et je dois dire que le conte m'a sauvée. Le conte m'a sauvée parce que je me suis mise à conter, et puis je suis entrée dans beaucoup de conte par ses personnages, parce que dans le conte il y a toujours des personnages extraordinaires, et sans s'identifier complètement bien sûr aux personnages, on peut s'inspirer de leur parcours et continuer avec eux. Voilà, moi je vois un petit peu les choses comme ça, peut-être que j'exagère un peu, mais je suis tombée dans le conte, c'est vraiment le cas de le dire, et je n'en sors plus, si je puis dire. Je dis toujours, apprendre des contes ou aborder le conte, c'est traverser un océan comme le Pacifique. Eh bien, moi, depuis 26 ans, je suis même pas au milieu. Hein. Je suis encore entre deux pays encore. Hein, voilà. Donc, pour moi, le conte, c'est quelque chose d'universel. C'est quelque chose qui est compris par tout le monde, que ce soit les enfants, les adultes ou autres. Tout le monde comprend un conte. Et ça, je trouve que c'est le plus important.
Et vous parliez du conte qui soigne. Est-ce que c'est pour ça aussi que dans votre association, vous avez aussi l'envie d'aller, par exemple, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite? Est-ce que c'est par là que ce travail un peu social, on va dire, est arrivé?
Oui, nous y allons. Hein, bien sûr que nous y allons. Moi, j'ai travaillé pas mal de temps avec des enfants autistes. J'ai travaillé 3 ans dans un centre de psychothérapie ici à Marseille. Et c'est vrai que... Alors, je ne sais pas ce que sont devenus ces enfants, parce que je ne les ai plus revus. Hein, c'était de tout jeunes enfants. Maintenant, ce sont des grands enfants. J'en ai rencontré un, il n'y a pas très longtemps, que j'avais rencontré dans ce centre. D'ailleurs, c'est lui qui m'a reconnu. Il m'a dit, mais je te connais, toi, je t'ai déjà vu. J'ai dit, ah oui, où tu m'as vu? Et il m'a expliqué où c'était. Et après, je me suis rappelé de lui, mais il était tout petit. Eh bien, cet enfant, il a fait son chemin. Alors, est-ce que ce sont les contes? J'en sais rien. Mais d'ailleurs, les psychologues, les psychiatres se servent beaucoup de ça. Hein, parce que, par exemple, il y a 15 jours, ici à Marseille, nous avons eu Boris Cyrulnik. Je ne sais pas si vous le connaissez. Boris Cyrulnik, vous ne connaissez pas. Hein, c'est un psychiatre. Et donc, lui se sert du conte dans sa thérapie. Et je pense que c'est important, parce qu'il dit que chacun de nous a besoin de se référer à un héros, quel qu'il soit. Hein, voilà, un méchant, un gentil. Mais tout le monde se réfère à un héros. Et quand on arrive à se référer à un héros, on peut s'inspirer de ce qu'il a fait dans l'histoire qu'on lui a racontée. Et moi, je crois beaucoup à cette thérapie-là.
Justement, quels sont vos héros, à vous, Julia Morandi-Serra, vos héros ou vos héroïnes?
Bien sûr. Ben, moi, des héros, j'en ai beaucoup, parce que j'ai beaucoup de contes dans la tête. Mais je crois que mon héroïne préférée, c'est Scheherazade. Scheherazade qui a soigné, qui a guéri ce fou de roi qui tuait à tour de bras toutes les jeunes filles qu'il voulait. Et ça, je trouve que c'est la première des féministes qui est arrivée à s'imposer à un roi si cruel et qui l'a guéri de sa folie. Et pour moi, c'est vraiment une de mon héroïne préférée. De plus, je pense que quand on aborde les mille et une nuits, là aussi, c'est immense, c'est grand, c'est extraordinaire. Et je dois dire qu'on n'a pas, si on n'est pas aidé dans ce chemin des mille et une nuits, on ne peut pas s'en sortir seul. Nous avons eu la chance dans notre association d'avoir un conteur exceptionnel qui s'appelle Djihad Darwish, qui est très connu, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est extrêmement connu, et c'est lui qui nous a initiés aux mille et une nuits. Et je dois dire qu'il nous a ouvert une route infinie, c'est extraordinaire.
We'll be right back.
vous parliez à l'instant de féminisme, quelque chose, j'imagine, qui vous touche aussi, qui vous concerne, ou en tout cas vous avez envie d'être, j'imagine, quelque chose en tout cas d'important pour vous. Quel regard vous avez sur la condition des femmes aujourd'hui au 21e siècle, quand vous regardez un petit peu dans le rétroviseur, est-ce que vous voyez cette condition évoluer? Comment a-t-elle évolué? Là, on parle plus forcément du conte à proprement parler, mais on peut aussi en parler au travers du conte. Vous parliez à l'instant de Sherazade, des Mille et Une Nuits. Ça nous renvoie à une époque très reculée. Qu'en est-il aujourd'hui du féminisme? Quel est votre regard dessus? Quelles sont encore les luttes ou les progrès que la société doit mener?
Alors là, vous abordez un sujet encore plus vaste, quoi, je crois, que les Mille et Une Nuits. Bon, moi, j'ai été féministe dans les années après 68, hein, parce que là, tout a bougé. Et en travaillant au planning familial, j'ai énormément lutté pour, justement, pour l'avortement, pour la pilule, parce qu'à cette époque-là, c'était interdit, tout était clandestin, donc c'était très difficile de lutter. Et comment dirais-je, notre satisfaction ou notre gloire, c'est d'être arrivé quand même à des fins. On est quand même arrivé à des choses. Alors, je ne sais plus trop où en est le féminisme. Vous savez, je suis une très vieille dame. Hein. Mais moi, je vois par rapport à mes petites filles, je vois par rapport à mes enfants, comme les choses ont changé. Hein. Moi, j'ai 7 petits-enfants et chez moi, il n'y a pas de mariage, par exemple. Hein. Bon, donc, j'ai 3 enfants qui ont eu chacun des enfants. Chacun de mes petits-enfants a des copains, des copines, ça va, ça vient. On est extrêmement tolérant là-dessus. Et je peux vous dire que quand j'étais jeune, on ne l'était pas du tout. Et là aussi, les choses ont changé. Et quand je vois mes petites filles qui parlent... Alors, je ne sais pas où en sont exactement leur sexualité. Ça, c'est quand même quelque chose qui reste toujours secret. Mais je pense qu'elles ont des facilités pour parler dans une famille où on est tolérant. Voilà. Donc, je crois que la tolérance, c'est ce qui compte le plus dans... Enfin, moi, dans mon parcours, en tout cas. Et je pense que c'est ce que j'ai passé à mes enfants. Dans la famille, on est extrêmement tolérants. Bon, les enfants ont des copains, des copines. Après, on ne les voit plus, puis on les revoit. Et puis après, on en voit de nouveau. Bon, ben voilà, le monde bouge, le monde change. Et heureusement, hein, heureusement. Ouais. Là, le féminisme actuellement, ben maintenant, il y a ce comment dirais-je, ces faits qui se sont produits avec le harcèlement. Bon, c'est compliqué là aussi, les choses sont très compliquées, parce que où ça s'arrête, le harcèlement, et où commence, comment dirais-je, là, quand quelqu'un vous plaît, comment le lui dire, hein, ça devient un petit peu difficile. Alors moi, je ne sais pas du tout, parce que je ne suis plus dans ce mouvement, mais... Je pense que là aussi, il faut faire la part des choses. Il ne faut pas se lancer à tort et à travers. Je pense qu'il faut faire un peu attention.
Et par rapport au féminisme, et pour revenir un petit peu aussi sur le conte et l'art en général, est-ce qu'il y a d'autres héroïnes qui vous ont marqué et qui ont fait aussi avancer votre pensée? Et qu'est-ce que vous pensez de ça, justement, de la représentation peut-être des femmes dans les contes? Est-ce qu'il y a une condition des femmes dans les contes à remarquer?
Alors, il y a beaucoup de contes où les hommes sont des héros. Il y a les rois, il y a les reines, il y a les chevaliers, il y a beaucoup de héros, mais il y a beaucoup d'héroïnes aussi. Dans les contes, c'est souvent la mère qui débrouille les choses. Hein. Il y a un conte merveilleux qui s'appelle Le Prince Serpent, où la mère attend un enfant depuis des années, le royaume aussi, et voilà qu'elle met au monde un serpent. Comment se sortir de cette situation? Et c'est elle, la mère, qui va faire toutes les démarches pour que son fils sorte de là. Et ce sont 3 sœurs qui vont sortir le héros, le prince serpent, de sa condition de serpent. Parce qu'elles ont accepté de l'épouser, et en l'épousant, elles l'ont transformé en homme. Donc on peut... Pour moi, c'est le conte initiatique parfait. Hein, le prince serpent, c'est le conte initiatique parfait. Premièrement, les démarches de la mère, puis les démarches des filles qui vont faire ce que les autres n'ont pas fait, c'est-à-dire accepter ce serpent comme il est et le rendre comme un homme.
Rediffusion d'une émission Principe Actif.
Quel regard vous portez sur le conte, sur l'oralité aujourd'hui au XXIe siècle? On est dans une société de l'image, de l'instant. Tout va très très vite, notamment avec Internet, avec les réseaux sociaux. Et pourtant, on trouve toujours et des conteurs ou des conteuses, et surtout des gens pour écouter ces contes, et notamment des histoires qui, on parlait des Mille et Une Nuits tout à l'heure, mais plein d'autres qui ont une longue histoire et qui disent des choses sur l'humanité et qui nous appellent souvent à la réflexion, à la sagesse. Voilà, quel regard vous avez sur la place du conte à notre époque?
Alors, on parle beaucoup de l'image, hein, puisque maintenant on est envahi par l'image, on est envahi par toutes sortes de choses. Et pourtant, dès que vous arrivez dans une classe, dès que vous arrivez à l'hôpital, dès que vous arrivez dans une maison de retraite, si vous dites il était une fois, ça tout change. Tout change à partir de ces trois mots. Il était une fois. Et le silence se fait. Donc, je pense que même actuellement, avec toutes les images qu'on a dans la tête, et Dieu sait si on en a, je pense que parler, la voix, c'est autre chose. Moi, je me souviens d'une de mes toutes petites filles, je vais vous donner un exemple, hein, d'une de mes toutes petites filles qui était toute petite, puisqu'elle n'avait que 3 mois, elle ne faisait que pleurer. Que crier, que pleurer, c'était infernal. Et ma belle-fille, à bout de nerfs, me dit « Je ne peux plus la supporter ». J'ai dit « Écoute, arrêtons, je vais m'en occuper ». J'ai pris la petite, je l'ai mise dans sa poussette et je lui ai parlé, je lui ai raconté une histoire. Je ne sais pas ce qu'elle a compris. Elle s'est calmée instantanément. Depuis, elle a grandi, c'est une grande fille, et elle adore les contes. Et elle écrit elle-même des histoires. Donc je veux dire que, alors je ne dis pas que ça vient de là, parce que petit à petit, moi mes petits-enfants ont entendu mes histoires tout au long de leur vie, évidemment, mais je veux dire que la voix, ça change tout. Alors moi je ne sais pas quelle est ma voix, je sais que je n'ai pas une très belle voix, mais je pense que c'est même pas ça qui fait, ce qui fait c'est le regard, c'est l'histoire qu'on va raconter et comment nous on la ressent. Si vous, cette histoire, vous l'avez en vous, que vous l'aimez. D'ailleurs, Djihad Darwish disait, pour raconter une histoire, il faut être amoureux de son histoire. Si on n'est pas amoureux de son histoire, on ne peut pas raconter. Et moi, je crois que ça, c'est le point d'orgue du conteur. Savoir raconter une histoire. Tout le monde peut raconter une blague, une histoire, n'importe quoi, ce n'est pas compliqué. Hein. Mais raconter un conte, c'est vraiment autre chose. C'est un travail. C'est un travail. Moi, j'ai lu beaucoup d'auteurs qui parlent du conte. J'en ai lu énormément. Et je dois dire que j'ai appris, moi, beaucoup de choses en lisant ces auteurs-là. Et puis moi-même, petit à petit, je me suis fait une opinion, hein, parce que, à force de conter, et puis à force de rencontrer les conteurs aussi, parce que j'ai rencontré énormément de conteurs. Et nous, dans notre association, bien que 26 ans de compte, on fait toujours des formations. Hein, on a toujours des formations en cours. Là, on vient de faire une formation avec une conteuse merveilleuse qui s'appelle Florence Ferrin. Et puis voilà, on continue comme ça. Et on apprend toujours quelque chose. Parce que une histoire qui vous a touché, pourquoi ? Pourquoi ce personnage-là vous a plus touché que d'autres ? Pourquoi, quand vous dites une phrase, vous avez le sanglot dans la voix ? Ben, il faut le comprendre, ça. Hein. Et moi, c'est ça que je recherche. C'est ce qui m'intéresse le plus.
Vous parliez au début de la différence entre un conteur, un comédien. Est-ce que vous percevez aussi une évolution par rapport au conteur d'antan, on va dire, et par rapport au spectacle que peut être le conte aujourd'hui?
Alors, je pense que le comédien, il a un texte à dire. Il ne doit pas se permet pas de sortir hors du contexte. Il doit dire son texte hors de son texte. Un conteur, il prend l'histoire, il la lit 4, 5, 6 fois, 7 fois, 100 fois. Hein. Vous savez, moi j'ai des contes pour pouvoir les raconter, je les ai travaillés un an ou deux. Hein. Bon, donc ça c'est autre chose. Et le conte, vous pouvez prendre le texte et puis après vous le transformez, vous faites ce que vous voulez. Vous regardez pas la virgule, le point, le nom. Vous continuez votre conte, vous pouvez ajouter des choses qui vous sont personnelles à l'intérieur du conte. Et comment dirais-je, il fait partie de vous. C'est pas un texte de théâtre, hein, pas du tout. Et je pense que il y a beaucoup de conteurs qui comptent seulement, sans rien. Hein. Moi, je compte sans rien. J'ai juste un petit instrument de musique qui me sert juste à faire un petit peu le point, mais je compte sans rien. Et je ne suis pas la seule. Hein. Je trouve que les vrais compteurs n'ont pas besoin d'un tas de choses autour d'eux. Hein. Alors, il y en a pas mal qui ont des instruments de musique parce qu'ils savent bien jouer, et puis d'autres qui n'ont rien. Et puis, moi, je préfère ne rien avoir, sauf quelque chose de tout petit, je vous dis, pour faire mettre un petit point d'orgue à une phrase ou un chose comme ça, surtout quand on raconte dans les classes.